Un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots. Bonjour à tous.
Bonjour Mireille.
Bonjour Philippe. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de Chantal Thomas.
Ah, de soutien-gorge.
Mais non, pas du tout. Notre Chantal Thomas, elle est née le 20 janvier 1945 à Lyon. C'est une romancière, essayiste, dramaturge, scénariste et spécialiste de la littérature et une universitaire française. Alors, bien entendu, il ne faut pas la confondre avec son homonyme Chantal Thomas, avec deux S, qui elle est née le 5 septembre 1947 à Malakoff, qui est créatrice de mode, fondatrice de la marque de lingerie du même nom, qui est reconnaissable à son éternelle frange, présente jusque dans son logo.
Alors, l'une est brune, l'autre est blonde, donc aux auditeurs d'aller voir laquelle est notre écrivaine.
Voilà. Alors, nous allons tout d'abord écouter quelques récits qui sont extraits du livre « La vie réelle des petites filles » qui est paru en 1995. Alors, on va les passer à la suite. On vous mettra un petit peu de musique entre deux pour vous faire digérer peut-être.
Mais il n'y a que des lectrices, hein,
voilà.
J'ai vu ça.
Voilà, et alors aujourd'hui, voilà, vous n'aurez que des lectrices puisque c'est une femme qui écrit et puis des propos un peu... féministe en port.
Engagée.
Engagée, voilà. C'est ça. Donc, alors, on vous propose tout d'abord Énigmatique plainte, qui va être lue par Marie-Laure, et qui sera suivie de La leçon de dessin, qui sera lue par Sophie. Bon, après, on fera une petite pause, et puis on lira les deux autres après. Mais à chaque fois, ce sont des petits textes courts.
Très bien.
Énigmatique plainte. Le savant graffiti ancien qui avait élucidé maintes stèles oubliées et inscriptions tambales embroussaillées au temple de Quanzhou, sa dernière victoire, la barre d'un idéogramme rougi de jus de mûre, qui peut-être à cause de ce soulignement naturel, soudain livra sa signification, jouit d'une renommée mondiale. Au fil des années, il est venu à bout de messages réputés illisibles que les chercheurs les plus acharnés des siècles passés s'étaient résolus à abandonner. La force du professeur Walzer consiste en un mélange unique d'intuition et de méthode. Celle-là, disent ses détracteurs, nombreux à proportion de ses succès, est en fait l'élément dominant. Il croit désigner une faiblesse. Ne se trompe-t-il pas? N'indique-t-il pas plutôt ce par quoi cet homme de science exceptionnelle peut obtenir des résultats irréguliers, mais aussi bien souvent, contre toute attente, là où les éléments extérieurs au texte sont les plus minces, de lumineuses solutions? Ils ont raison. Encore plus qu'il ne le pense, en taxant le professeur de grand intuitif. S'il leur était donné de passer ne serait-ce que 10 minutes dans la tête du savant en graffiti abscon, ils seraient effrayés. Car, en sa tête, le savant ne se livre pas à des calculs, il ne médite pas des formules. Il poursuit un dialogue continu, ardent, avec celui qu'il nomme le gribouilleur, et qu'il considère à l'origine de toutes les inscriptions qui couvrent la terre. Ainsi, chaque fragment auquel il est confronté ne lui semble pas un cas particulier, mais une variante issue de la même main. Son délire, s'il en est un, lui donne sur les autres chercheurs l'avantage de la cohérence. Au degré de renommée dont jouit Walzer, et étant donné son grand âge, il ne se déplace que rarement. Il faut vraiment que la difficulté rencontrée soit taxée d'insurmontable pour qu'il daigne intervenir. C'est le cas pour ces deux lignes, en partie rongées par la mer et incrustées de coquillages, récemment découverte à l'extrême pointe du Yucatan. Deux lignes, mais le tracé en est à ce point détérioré qu'on ne parvient même pas à en déterminer le système d'écriture. Ils se sont mis à plusieurs pour faire l'assaut du vieux paléographe et réclamer son aide. Non sans regret, l'illustre savant s'arrache au calme de sa bibliothèque. Il se coiffe de son casque colonial et s'envole pour le Mexique. Il arrive épuisé à Mexico où il prend un petit avion pour le Yucatan. Un orage affreux se déchaîne. Le ciel est sillonné d'éclairs. Walzer est posé dans une moiteur irrespirable. Le comité scientifique l'attend de pied ferme. Lui se sent défaillir et demande être conduit à son hôtel. Au lieu de cela, ses collègues l'emmènent directement sur la plage où se tient le rocher de l'énigme. Mais au parfum de mer, le vieil homme se sent revivre. C'est donc en pleine possession de lui-même que le savant reçoit la gifle du sens que, sans aucun mal, il déchiffre. Walzer se redresse, éberlué. Il est choqué et peiné qu'après une aussi longue coexistence, le gribouilleur ait encore le cœur à se moquer. Mais il ne laisse rien passer de son trouble. Il prononce d'un ton neutre un naufragé de la fin du 16e extrême fin, 1598, 1599 peut-être, a gravé ces lignes. Un naufragé jeune, tout jeune, qui, les pieds dans l'eau et le cœur navré, a écrit ce qui suit. « Quoi, je n'ont pas joué ensemble à la madame, à Colin Maillard, à la queue-leu-leu, à la pétangueule ?» Signé le puni. « Quoi ?» reprennent en écho les chercheurs.
Vous sortez de votre cartable votre trousse à crayons. Vous choisissez un crayon à papier bien taillé. S'il ne l'est pas, vous le taillez avec votre taille-crayon. Ah, on a oublié son taille-crayon, Guillaume. Ce n'est pas bien ça, pas bien du tout. Vous placez bien droit la feuille de papier que je viens de vous distribuer. Oui, Noémie. Dans quel sens ? Dans le sens de la hauteur, je croyais l'avoir déjà dit. La gomme à votre côté, elle peut toujours servir. Voilà, tout le monde est prêt ? Et toi, Pascal, qu'est-ce que tu fais sous la table ? Ce n'est pas un cours de spéléologie, mais de dessin. Qu'est-ce que veut dire spéléologie ? Personne ne répond ? Je vous expliquerai une autre fois, on a déjà perdu 20 minutes à des bêtises. Bon, maintenant, vous regardez bien le groupe des trois courges posées sur ma table et vous les dessinez du mieux que vous pouvez. Vous vous efforcez de dessiner exactement ce que vous voyez. C'est un exercice de précision, d'exactitude. Dites-vous bien que ce n'est pas difficile. Il s'agit d'apprendre à regarder les trois courges. Valérie, pas la feuille de ton voisin. Ce n'est pas croyable cette manie de copier. En calcul ou en dictée encore, je comprends, mais en dessin, c'est inimaginable. Maladif même. Vous avez 25 minutes. 30, supplie une petite voix. Ne perdez pas votre temps à rêvasser. J'ai dit qu'il fallait apprendre à regarder, pas à rêver. On n'entend plus dans la classe que les pas du professeur qui marche autour de la salle. Le bruit léger des crayons, le frottement des gommes. Au bout de 10 minutes, Clélia lève le doigt. Le professeur se penche sur son travail. En quelques traits, elle a dessiné une réplique parfaite de la Joconde.
Ah, les trois courges, tout un programme.
Ça te rappelle des souvenirs ?
Vaguement. On évitera toute analogie.
Voilà. Non, moi, je me rappelle d'avoir... Il y avait l'arrosoir sur le bureau, enfin, des objets comme ça, oui, qu'il fallait dessiner.
Reproduire.
Donc, voilà. Donc, là, deux petits extraits. Puis, donc, on va enchaîner maintenant avec Les Frisés et Bécassine d'Ormal. Donc, de lecture tirée, bien sûr, des bécassines que j'ai moi-même lues assidûment quand j'étais petite.
Pratiquée.
Voilà. Donc, toujours tiré du livre « La vie réelle des petites filles ».
Et lu par Viviane.
Voilà. Et là, les deux extraits sont lus par Viviane, effectivement. Merci de le rappeler.
Les Frisés. Personne ne met en doute la bonne volonté de Bécassine. Ce n'est pas la question. Sa maîtresse, elle-même, la marquise de Grantaire, n'a jamais soupçonné en sa bonne la moindre tentation de rébellion. Non, le dévouement de la servante est entier. Il touche même au fanatisme. Bécassine aime, Bécassine adore servir. Si elle satisfait rarement les demandes, la faute en est à la singularité d'un esprit plus orienté vers l'interprétation poétique que vers la solution pratique. Bécassine est comme possédée du démon de l'impuissance. Elle fait davantage que simplement ne pas pouvoir. Elle s'ingénie dans l'incapacité. Elle en a fait la preuve une fois de plus, un jour où Madame de Grantaire lui a commandé d'aller chercher une frisée pour le déjeuner. Oui, une frisée, c'est bon les frisées, et c'est joli, songe Bécassine en se dirigeant vers le jardin, un panier au bout du bras. Plantée au milieu du potager, elle se concentre pour trouver les frisées. Elle reconnaît le coin des groseilles et des framboises, les fraisiers, les hautes rhubarbes. Elle voit aussi les tomates, les haricots verts, les asperges. Elle se concentre de plus en plus fort. Pas de frisées, seulement des laitues et des cornettes. Or, madame a dit une frisée. Bécassine, les pieds en dents, les sourcils en accent circonflexe, se tord les mains de désespoir. Eh bien, soupire-t-elle, puisque c'est la seule solution. Et elle se met courageusement au travail. À genoux, entre les rangées, elle couvre laitue et cornettes de papillotes. Les cornettes sont plus faciles. Ce n'est pas une raison pour négliger les laitues. Elle les traite feuille par feuille, leur tête ronde, tire-bouchonnée de papier argent. Ses frisures l'absorbent toute la journée. Ce n'est pas rien de coiffer des crudités. Lorsque, en fin d'après-midi, la marquise et ses invités font un tour dans le jardin, ils découvrent Bécassine endormie sur son ouvrage. Que l'on offre à ses frères des livres aux héros prestigieux, Théa reçoit régulièrement des albums de Bécassine. Cela se passait de même pour sa mère, sa grand-mère et son arrière-grand-mère. Il n'y a pas de raison que la tradition s'arrête. Théa, loin de se rebeller contre la justice qui mettrait dès le départ toute l'imbécilité du monde de son côté, se délecte. Elle aime tout les albums de Bécassine, avec une préférence marquée pour Bécassine d'Ormal. Ça ne veut pas dire que la petite fille s'ennuie à la lecture de Bécassine en chômage, Bécassine au bain de mer, Bécassine en apprentissage, Bécassine en aéroplane, Bécassine dans la neige, Bécassine au pensionnat, la machine à coudre de Bécassine, Bécassine mobilisée, Bécassine au Pays Basque, les bonnes idées de Bécassine, Bécassine fait du scoutisme, Bécassine en roulotte, Bécassine chez les Turcs, les mésaventures de Bécassine, Bécassine alpiniste, Bécassine en roulotte, Bécassine chez les Turcs, les mésaventures de Bécassine, Bécassine alpiniste, Bécassine nourrice, Bécassine à cloche les Bécasses, Bécassine chez les Alliés ou Bécassine voyage. Non, aucune des aventures de la servante ne la laisse indifférente. Mais Bécassine d'Ormal la touche particulièrement. Théa, qui ne peut voir le soir tomber sans souhaiter que la nuit ne vienne jamais, se réjouit de savoir que Bécassine, elle aussi, a peur du noir. Le mauvais sommeil est mis par ses parents au compte d'une mauvaise conscience. Dans sa famille, les cauchemars se soignent au confessionnal. Serait-ce le cas pour Bécassine? Tant que ne sera pas encore paru l'album Bécassine va à confesse, il faut se contenter de suppositions. Bécassine en chemise de nuit, sans sa coiffe et révélant la maigre queue de rat qui constitue sa chevelure, c'est déjà un épisode. Il continue dans l'imagination de Théa, ses rêveries sur le crâne chauve des religieuses. Mais Bécassine, se mettant au lit et appliquant sans le savoir la méthode kantienne qui permet de s'introduire entre drap et couverture sans rien défaire, c'est un exploit et Théa jubile. Ensuite, Bécassine essaie de s'endormir. Elle ferme les yeux et s'applique à ne pas faire un mouvement. Elle gît ainsi, en ordre, comme on le lui a appris. Les mains croisées à l'emplacement de la poitrine, les jambes parallèles, la tête bien droite. Parfois, le stratagème réussit et Bécassine s'endort. Mais c'est pour peu de temps. Très vite, des cauchemars la réveillent. Elle rêve qu'elle fait de l'alpinisme. Elle a posé un chapeau de feutre vert sur sa coiffe et troqué ses chaussons ronds contre de lourds godillots. Un sac à dos et une canne à bouffer ferrée achèvent de la paralyser. Au premier pic à escalader, elle perd la tête. Bécassine se voit agrippée à une montagne pointue comme une sucette. Elle est prête à tout lâcher. Bécassine, dans sa peur, a transformé son petit lit en champ de bataille. L'épi de sa tresse se dresse droit sur sa tête. Théa, haletante, saute des pages. Au problème des cauchemars qui trahissent chez Bécassine, une réalité spirituelle indéniable, il faut ajouter celui de ronfler, qui la dote d'une dimension physique supplémentaire. Bécassine fait tout ce qu'elle peut pour remédier à ce travers. Après s'être glissée dans son lit sans faux plis, elle se coince ce qu'elle peut donner dans une pince à linge spécialement trafiquée à cet usage. Puis elle redouble cette mesure par l'injonction d'un gros oreiller. Ainsi étouffée, elle attend le sommeil. Quand celui-ci finit par arriver, les premières minutes sont grandioses. On pourrait croire que Bécassine a vaincu la bête. Mais très vite, sa nature ronflante reprend le dessus, pulvérise pince à linge et oreiller et la jette hors d'elle. Que va faire notre héroïne maintenant ? Théa, ses sens en éveil, ses lunettes sur le nez, essaie de deviner la suite. Mais Bécassine défait tous les pronostics.
Eh bien voilà.
Ouais, je ne peux que citer Georges Brassens. Sous la coiffe de Bécassine, un champ de blé prenait racine.
Oh, très bien, très bien.
Ceux qui cherchaient la toison d'or ailleurs avaient bigrement tort. Je m'arrête là.
On va merci pour ces petites citations de notre poète. Donc voilà, bon, l'enregistrement n'était pas terrible là, alors excusez-nous, voilà, on essaiera de mieux faire.
Ce n'est pas facile l'enregistrement.
Alors on va reparler un petit peu de Chantal Thomas. Donc, elle est docteur en troisième cycle depuis 1976, puis docteur d'État S-Lettres en 1991. Elle a enseigné dans plusieurs universités américaines et elle est directrice de recherche au CNRS. Donc, c'est une spécialiste du XVIIIe siècle, en particulier de Sade, Casanova et de Marie-Antoinette. Elle a été révélée au grand public avec Les Adieux à la Reine, prix Femina en 2002, adaptée au cinéma par Benoît Jacquot, en 2012, qui a reçu le prix Louis de Luc. Son œuvre romanesque, qui a été traduite avec succès dans de nombreux pays, comprend aussi Le Testament d'Olympe et L'Échange des Princesses, qui sont aussi portés à l'écran par Marc Dugain en 2017, film dont elle a coécrit le scénario avec le réalisateur. En 2017, elle publie aux éditions du Seuil Souvenirs de la marée basse, qui raconte la discrète insoumission de sa mère et son amour inconditionné pour la nage libératrice. Alors, au théâtre, ses textes, Le Palais de la Reine et L'Île flottante ont été joués et mis en scène par Alfredo Arias, en France et en Argentine. Celui-ci a aussi créé une version chorégraphique de L'Échange des Princesses, Les Noces de l'Enfant Roi, présentée à Versailles dans le cadre du festival des Fêtes de Nuit. Alors, nous allons maintenant écouter quelques passages du livre intitulé « Souffrir » qui est paru en 2003. Mais peut-être, Philippe, tu as des petites choses à nous dire entre deux.
Est-ce que tu avais vu justement le film de Benoît Jacquot, « Les adieux à la reine »
Oui.
C'est avec Léa Seydoux dans le rôle de la lectrice de Marie-Antoinette.
Ouais. Bah, c'est vrai que c'est un beau film. Enfin, moi, je n'ai pas lu le livre, mais le film est...
Le film est chouette, mais on voit que Marie-Antoinette n'est pas un personnage très sympathique. On ne va pas divulguer ce qui se passe dans le film, et la pauvre lectrice sert de leurre à un moment donné.
Voilà. Ça finit mal pour elle.
Ça finit pas très bien.
Donc voilà, alors le livre intitulé « Souffrir » qui est paru en 2003, donc c'est pareil, c'est des... comment on peut dire
des petits textes, non?
Des petits textes, voilà, sur différentes périodes, voilà, de sa vie aussi, ou de réflexion en tout cas qu'elle a sur le...
Donc comme des nouvelles, finalement.
Oui, mais très courtes.
Très courtes, des petites nouvelles.
Voilà, des très très petites nouvelles. Alors, je vous propose d'écouter tout d'abord « Absence », qui est lu par Viviane. Et on va enchaîner avec « Attendre », lu par Mireille. Et puis, on refera une petite pause, puis voilà, on en reviendra après.
« Absence ». J'ai vu mes parents se toucher une seule fois. La scène a eu lieu sur un chemin de montagne, dans les Alpes. J'avais alors 6 ou 7 ans. Je gambadais devant eux à cueillir des fleurs. Soudain, mu par l'intuition qu'un événement se produisait, je me suis retournée comme pour leur montrer mon bouquet. Ils se tenaient par la main. J'en suis restée stupéfaite et suis revenue avec fièvre à mes fleurs. Je n'osais plus me retourner. Le soir, au restaurant, je ne saisis pas trace de ce rapprochement tendre, ni plus jamais dans les années qui ont suivi. Il s'appelait constamment « chérie »,« chérie eux ». Elle, avec la voix chargée de colère, lui, la voix éteinte, empreinte d'une lassitude désespérée. Le dimanche matin, j'allais à la messe, mon père allait à la pêche. Ma mère restait dans la cuisine où elle bougeait quelques casseroles en attendant l'heure du déjeuner. À midi, on écoutait la radio. Ces voix venues d'ailleurs n'avaient pas le pouvoir de dégeler le silence de la maison. Silence n'est pas le mot juste. La maison n'était pas bruyante, mais elle n'était pas silencieuse pourtant. C'était non au langage, mais au bruit des choses que mes parents s'en remettaient pour exprimer leur mécontentement. La maison respirait la mauvaise humeur. Portes claquées, verres brisés, et à la tombée de la nuit, le choc des volets refermés que je traduisais pour moi-même par « ça suffit pour aujourd'hui ». Quant au langage des mots, au langage entre personnes, il avait été évacué depuis longtemps. Il s'était dissous dans leur fatale incapacité à se dire à temps qu'ils ne s'aimaient plus, qu'il fallait annuler le projet de mariage, avoir le courage d'avertir leur famille. Ce seraient des fiançailles rompues, ce n'était pas catastrophique. Au lieu de ça, ils s'étaient tus, s'étaient mariés comme prévu, sans rien laisser paraître. J'avais regardé leurs photographies de mariage, ils étaient beaux et souriants. L'expression de leur visage pour cette cérémonie ne ressemblait pas à celle qu'ils offraient quotidiennement, marquée d'une rage sourde, celle de l'absence de bonheur. Ils n'avaient pas de mots pour la suite banale des jours. Ils en avaient encore moins pour les drames et pour les deuils. Chacun, alors, se renfonçait un peu plus dans son aphasie et je sentais passer au-dessus de ma tête comme des projectiles mats, comme des petites balles dures, les quelques paroles indispensables pour que tout se déroule normalement.
Attendre, une seule vie. Mon père et ma mère, à l'image de beaucoup de couples, ont utilisé leurs enfants comme prétexte à ne pas se séparer. C'était ma fonction. Grâce à moi, deux personnes qui ne s'aimaient ni ne se désiraient plus restaient ensemble. Je n'avais rien à faire de particulier. Je n'avais pas à coopérer. Exister, grandir, voilà ce que l'on me demandait. Plus tard, beaucoup plus tard, lorsque je serai grande, ils pourraient s'en aller chacun de ce côté. Cela, ma mère, égarée dans sa colère perpétuelle, ne se le disait certainement pas, mais mon père, si. Il se le disait et le disait aux femmes qui, pour leur malheur, tombaient amoureuses de lui. Elles attendaient, un moment, elles pleuraient, faisaient des scènes, puis se lassaient. Elles prenaient sans doute son silence pour de l'indifférence. Elles avaient tort. Il était tenté de les aimer. Il en avait une envie extrême, insupportable. Il en était malade intérieurement, tout en s'exhortant à prendre son mal en patience. Il faisait du bateau, jouait au tennis, s'enfermait dans le garage pour bricoler, se perdait dans des silences interminables. Mais un jour, il a perdu patience. Il est mort à 40 ans. Peut-être cette idée, terrible, notée par Franz Kafka dans son journal. Je vis en ce monde comme si j'étais absolument sûre d'une deuxième vie. Un peu comme je me suis consolée de mon séjour manqué à Paris, par exemple, en pensant que j'essaierais d'y retourner bientôt. L'a-t-elle traversée, à l'improviste, étuvée.
Bon, ouais.
Les rapports parents-enfants.
Voilà,
hein.
c'est jamais facile. Hein.
Pas toujours le. Voilà.
Des fois, on attend des choses qu'on n'aura jamais. Et des fois, on en reçoit qu'on n'a pas envie de recevoir.
Oui, voilà.
Donc voilà. Alors, on va continuer donc sur des extraits du livre Souffrir. Donc, par livre d'enfance, donc lu par moi-même, et aussi plainte. Voilà, donc on va mettre à la suite.
Livre d'enfance. Quand j'étais enfant, j'avais plein de cachettes. Je pouvais, sur la plage, me cacher dans une barque. Dans le jardin, j'avais ma cabane. Enfin, et de la magie agissait n'importe où, il me suffisait d'ouvrir un livre. Ce n'était plus moi qui disparaissais, mais le monde qui disparaissait à mes yeux. Pour l'effet de tranquillité, c'était égal. Le petit toit que forment les livres lorsqu'on les en trouve, tranche tournée vers le ciel, est le plus sûr des abris. Ils avaient la particularité de s'imposer, chacun selon une singularité absolue, et de me dessiner, réunis, un bel éventail des manières de souffrir. Par le fouet, grâce aux méthodes pédagogiques russes mises en scène par la comtesse de Ségur. Elles avaient sur moi un effet d'hypnotisme. Je sentais mes yeux s'agrandir, un engourdissement me gagnait. Je lisais et relisais les scènes de violence de Madame Fichini sur Sophie. J'appréhendais d'abord comme un soulagement, ensuite comme une plus grande angoisse, le passage de Sophie dans les espaces régentés par Madame de Fleurville. Je traversais le parc, pénétrais dans le château. Je découvrais la salle à manger, le salon de conversation, la bibliothèque des ancêtres, la chambre de Camille et Madeleine, leur salle d'études. Tout me mettait mal à l'aise. Je comprenais enfin que je poussais la porte du cabinet des pénitences, avec la table nue, l'encre et les porte-plumes, et le livre de la journée du chrétien, dans lequel il me faudrait recopier 10, 20, 30 fois « Notre Père qui es aux cieux ». J'étais passé de la fournaise des coups de fouet et d'une méchanceté débridée à un système minutieux de punition et récompense. Camille et Madeleine sont des modèles d'obéissance. Elles devinent les ordres et les exécutent avant même qu'ils soient prononcés. Leur mère leur a arraché jusqu'au moindre souffle de révolte, au plus léger sursaut de colère. Madame de Fleurville, ses gants, ses chapeaux, son sourire et ses bonnes manières me donnaient la chair de poule. Elle était la maîtresse en chef de toutes les maîtresses d'école de l'univers, l'œil omniprésent qui surveillait toutes les cours de récréation. Que vaut-il mieux, le fouet ou le cabinet des pénitences, la marâtre qu'on déteste ou la bienfaitrice qui vous anéantit? Non mais que vaut-il mieux? Pleure Sophie, perdue dans la forêt. Par la solitude et la privation des lieux qu'on aime à travers les aventures de Heidi, écrite par Johanna Spyri, séparée de son grand-père, de ses montagnes suisses, des alpages, et condamnée à vivre en ville, là où, quand on ouvre sa fenêtre, on n'aperçoit rien d'autre que des maisons de pierre. Le sort de Heidi me déchirait l'âme. Je m'imaginais forcée de vivre loin de la mer, j'en suffoquais. Par la misère, la déchéance sociale, les méfaits de l'alcoolisme, avec Gula, fille de la colline, de M. Sandval Bernström, ce récit qui avait des couleurs des champs de pommes de terre, peint par Van Gogh dans sa jeunesse, représentait l'exact pendant de Bella, fille de la jungle, de James Shaw, également publié dans la bibliothèque Rouge et Or. Bella, comme Gula, a des malheurs. Elle est maudite, chassée de sa tribu. Elle survit dans la jungle parmi les bêtes sauvages et perd l'usage de la parole. À la fin, bien sûr, elle est sauvée, mais dès la première lecture, j'oubliais le dénouement heureux. Bella demeurait l'errante, la sans-abri, l'adolescente à peine vêtue d'un pagne, qui, au coucher du soleil, sous des ciels orangés, joue sur son harmonica des berceuses aux crocodiles. Les malheurs de cette petite fille de roi jetée aux fauves étaient sensuels et veloutés, et c'est la douceur de sa peau que je caressais en effleurant les pages du livre. Nulle sensualité, en revanche, dans la puissance d'affliction qui détenait Gula, fille de la colline. Cela aurait pu me faire préférer Bella. Pas du tout. Gula, une pauvre orpheline, obligée de prendre la place de sa mère et d'élever ses frères et sœurs affamés, dépenaillés, existait aussi fortement que Bella. J'aimais sa tresse et son air grave, sa cape, ses bas de laine, son parapluie de bergère. J'aimais surtout deux moments dans cette histoire à goût de ranci et de larmes rentrées. Celui où elle marche seule sur un chemin déjà plongé dans la brume du soir. Sa maison, peut-être, n'est pas loin, mais ce n'est pas pour la réconforter, car sa maison n'est, en fait, qu'un redoublement d'obscurité et de froid. Son sol est de terre battue, humide et glaçante. Gula est horriblement fatiguée. Elle trébuche contre une pierre et renverse un peu du lait qu'elle porte dans une boîte de métal. Elle avance, fourbue, sous un ciel noir. L'autre moment effrayant se situe dans la maison. Les frères et sœurs sont endormis. Gula est encore en train de travailler. Elle coud. Mais surtout, elle attend. Elle est pétrie d'angoisse et frémit au moindre bruit. Elle redoute ce qu'elle attend. En effet, arrive finalement l'instant où le père fait son entrée. C'est un paysan alcoolique et méchant. Sa façon d'ouvrir la porte, de jeter un regard circulaire dans la pièce, de s'attarder sur Gula penchée au bout de la table, me communiquait une pure panique, un pressentiment de brutalité qui me poignait d'horreur. Plainte. Bonjour, ça va ?
Ça ne va pas, mais je m'entends répondre. Très bien, et vous ? D'une voix juvénile et flûtée, imperméable au malheur, d'une voix d'hôtesse de l'air qui vous propose de choisir entre Bordeaux et Champagne, alors qu'il vient d'apprendre que l'un des moteurs est en flamme. Pour me faire encore plus discrète, je ne parle pas en mon nom propre. Je laisse le temps qu'il fait s'exprimer à ma place. Ça va, avec ce beau soleil ? S'il n'y a pas de soleil, un bref constat météorologique, en passant, va dans le sens de la bonne humeur. L'important est de ne pas s'y attarder. C'est la règle du jeu. Chacun a intérêt à la suivre, surtout aux heures matinales, lorsque le « bonjour, ça va » sonne en début de journée, qu'il y a devant soi tout un espace à parcourir, des tâches à accomplir, des désagréments à surmonter, et qu'il faut pouvoir compter sur un capital d'énergie certain. Cependant, au lieu de s'en tenir à un optimisme formel, à un stoïcisme léger, certains s'écartent de la règle et dévoilent aussitôt une faille, à n'importe qui, au premier venu, sans égard pour la prudente réserve qu'il vient, lui, d'observer. Du tac au tac, ils répondent par un « à peu près », « coussi coussa », »,« ça va moyen », »,« faut le dire vite », »,« on fait aller », »,« ça pourrait aller mieux, mais que voulez-vous, c'est la vie ». Avec « c'est la vie », la formule est lâchée, le sésame ouvre-toi du grand déversoir de la plainte. Elle était là, toute prête. Elle n'attendait qu'une occasion. Le moindre prétexte fait l'affaire. À un arrêt d'autobus, j'avertis une dame, prête à s'asseoir, que le banc est déséquilibré. « Qu'est-ce qui n'est pas déséquilibré de nos jours ?» me dit-elle, en se laissant choir de tout son poids et manquant de basculer. Puisque c'est la vie et qu'on est dedans, on y a droit nous aussi, à dire que ça ne va pas du tout, que l'atmosphère est sinistre, le gouvernement pourri, l'état des lieux calamiteux, que le bon Dieu est un sadique et le Père Noël une ordure, que si ça doit durer comme ça encore longtemps, eh bien merci, autant en finir aussitôt. Et franchement, le monde qui se prépare pour nos enfants ne donne pas envie de le connaître. Une fois qu'on est sur le chapitre de la plainte, nulle crainte à avoir, l'accord est complet. On peut toujours en rajouter. On ne risque jamais de lasser son interlocuteur. À dire vrai, ce ne sont pas deux personnes qui parlent, mais une seule plainte, qui passe de l'une à l'autre. Comment ça pourrait aller, en effet, avec les soucis, les enfants, les maladies, les maris, pas de mari, l'argent qui manque et les années qui s'accumulent. Le fait de trouver quelqu'un avec qui se plaindre à l'unisson ne console pas. Ça conforte plutôt dans la certitude que personne n'est épargné, que partout où l'on porte son regard, c'est le même tableau déprimant, que rien ne va. La plainte est intarissable. Tous les prétextes lui sont bons. Elle est une sorte de cahier de doléances, confus, inarticulé. et qui, à la différence de celui-ci, ne porte ni revendication ni accusation. Pourtant la plainte, et c'est peut-être son moteur secret, est habitée du sentiment de l'injustice. Mais c'est une injustice si atroce, originelle, fondamentale, qu'elle demeure définitivement indicible. « Quand je suis dans la merde, je chante », a écrit Samuel Beckett. Si son exemple se généralisait, on vivrait en musique. Des chœurs inouïs de force et de beauté s'élèveraient de nos campagnes comme de nos cités. Et de la somme innombrable des affreux malheurs et des vrais fléaux, des douleurs sans pareil et des mini-débâcles qui nourrissent l'envie de récriminer, jaillirait un opéra de la vie, le grand opéra d'aujourd'hui, l'immense opéra des plaintifs. Et demain sera-t-il aussi pire? Demain, un merdier à l'échelle de la planète. Alors je chante encore plus haut, à pleine gorge. Les verres explosent, les façades se lézardent. Tout pète et je lance ma trille.
Bah, je confirme, un peu comme Charles Trenet, voilà. Dans Je chante. Hein, où tout ne va pas si bien que ça, puisqu'il se pend dans la chanson. Dans tout ce que tu as lu, Mireille, moi j'ai noté... Le petit toit que forment les livres lorsqu'on les en trouve, tranche tournée vers le ciel, est le plus sûr des abris. Je trouve que c'est très bien écrit.
C'est joli, hein, voilà. C'est vrai qu'on fait ça, enfin, je ne sais pas si toi tu fais, mais c'est vrai que je ne corne pas les pages de mon livre, je préfère le mettre à cheval, voilà, comme ça. donc voilà. Alors, Chantal Thomas, elle assure aussi une chronique mensuelle dans le journal Sud-Ouest. Certaines de ses chroniques, qui sont parues entre 2014 et 2018, sont publiées en 2020 par Le Seuil sous le titre « Café Vivre, chronique en passant ». Alors, elle est également membre du jury du prix Fémina. Elle a reçu en 2014 le Grand Prix de la Société des gens de lettres pour l'ensemble de son œuvre, le prix Roger Caillois de la littérature française et en 2015, le prix Prince Pierre de Monaco. Elle est également officier de l'Ordre des Arts et des Lettres, officier de l'Ordre National du Mérite et commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres.
Tout ça.
Hein, ça en fait...
une bonne liste.
Donc, en 2020, elle se porte candidate à l'Académie française et le 28 janvier 2021, elle est élue au premier tour de scrutin au fauteuil de Jean d'Ormesson.
Oui, alors Mireille, est-ce que tu sais de quand date la création de l'Académie française?
Ah non.
Ah, j'ai noté ça. Je suis étonné que ce soit si vieux. C'est 1635.
Ah oui.
Et Chantal Thomas est seulement la 10e femme à faire son entrée parmi les immortels.
Ah.
Ça fait pas beaucoup depuis le début.
Non, il n'y a pas beaucoup de femmes alors. Hein.
Voilà.
Et t'as pas le nombre d'hommes qui sont...
Bah non, mais enfin, ça excède les 10.
Mais depuis 1600, voilà, de la vie, il y en a un certain nombre. Donc elle a écrit de nombreux romans, hein, comme on a dit déjà tout à l'heure, Les Adieux à la Reine, Le Testament d'Olympe, etc. Des essais sur Sade, Casanova, Don Juan, Marie-Antoinette, des récits et des essais, comme Comment supporter la liberté, Souffrir, L'esprit de la conversation, Souvenir de la marée basse. Et East Village Blues, Village
oui,
Blues.
Village Blues. Alors, il y a une orientation. Hein. Tu notes Sade, Casanova, Don Juan. Il y a une couleur, là, quand même.
Alors, en 2015, elle participe aussi à l'émission Secret d'Histoire, qui est consacrée à Giacomo Casanova, qui est intitulée Casanova, l'amour à Venise, qui a été diffusée le 20 octobre 2015 sur France 2. Alors, nous allons terminer l'émission par la lecture d'un extrait du livre East Village Blues, qui est paru en 2019. Le chapitre s'intitule « La vie fictive d'Andy Warhol ». Et rappelons que cela fait 35 ans que Andy Warhol est décédé, le 22 février 1987, suite à une opération de la vésicule biliaire. Il meurt le lendemain d'une attaque cardiaque.
Voilà. Alors, quelque chose peut-être en parallèle à l'actualité, c'est que je me suis aperçu que East Village, c'est un quartier d'origine ukrainienne et polonaise. C'était un quartier pauvre au sud de Manhattan où beaucoup d'artistes vivaient, notamment Le Velvet avec Lou Reed, Warhol justement, voilà, Ginsberg.
La Factory.
Voilà. Et donc origine ukrainienne, je ne savais pas. Mmh. À l'est, il y a East River de ce quartier, et à l'ouest, Greenwich Village. C'est pour ça qu'on l'a appelé celui-là, East Village.
Voilà, donc c'était tout le coin un peu intello et puis bohème.
Exactement.
Du New York de l'époque. Voilà. Alors, dans ce livre, hein, donc elle se souvient donc des années 70 et fait revivre l'intensité d'une époque où régnait l'audace et la liberté.
Oui, et tu me disais qu'elle y est retournée donc 40 ans plus tard pour une sorte d'hommage à toute cette époque.
Voilà, hein,
c'est ce qu'elle a voulu faire.
Donc, elle a vécu là-bas quand elle était toute jeune, elle avait, je crois, à peine 20 ans.
Très bohème. Hein.
Donc, on va écouter la vie fictive d'Andy Warhol, donc lue par Viviane. Et moi, je fais quelques petites
incursions.
La vie fictive d'Andy Warhol. Dans l'un comme dans l'autre, à Paris, comme à New York, se jouait et se rejouait le drame millénaire entre d'heureuses expectatives et le retour à la réalité. Qu'il se produisît dans des clubs réservés aux femmes, y changeait-il quelque chose? La solitude y prenait-elle une couleur différente? Je crois que oui, et peut-être même, parfois, des teintes plus sombres, mais sur un fond d'audace assumée, avec la conscience d'un dépassement de soi, d'une signature personnelle dans l'épopée de ses amours, quand bien même celle-ci tarderait à prendre forme. Nina Bouraoui écrit de ses soirées au CAT qu'elle découvre à l'âge de 18 ans.
Au bar, assise, j'attends. C'est triste. J'accepte cette tristesse car, dans ce lieu qui ne me plaît pas, je cherche quelque chose. Les mêmes chansons passent et repassent. Rien ne varie de soir en soir. Cela m'évoque la mort. Je regarde les femmes danser entre elles. Seule ma solitude me choque.
Lisant sur Internet des témoignages sur les soirées à Bonnie and Clyde, je suis arrêtée par celui de Peggy Shaw, actrice et auteure qui le fréquentait dans les années 70.
Je me souviens du premier bar lesbien dans lequel j'ai mis les pieds. Je n'avais jamais vu de femmes danser le slow ensemble. J'avais vu des drag queens dans des bars à Boston, mais je n'avais jamais vraiment vu ce genre de couple intense et magnifique, avec une femme butch et une autre féminine. C'était très beau. C'était tellement à l'opposé de la culture ambiante. C'était vraiment assez effrayant. Du coup, on se mettait à boire beaucoup et vite. On buvait. On claquait beaucoup d'argent dans les bars. Vous voyez l'idée, on trimait toute la semaine et le vendredi soir, on allait à Bonnie and Clyde dans la 3e rue, dans le West Village, une boîte incroyable. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Bonnie and Clyde. C'était surtout un bar pour femmes noires. Beaucoup de postures, une table de billard, beaucoup d'alcool. Je crois que je suis restée collée au mur avec une bière à la main pendant à peu près 5 ans. Ce n'était pas vraiment un endroit qui incitait à la conversation.
Une accro du vendredi soir, une acharnée à trouver l'amour. J'ai peut-être rebu des pierres debout contre le mur à ses côtés et échangé avec elle des mots d'ivresse, des mots aussitôt prononcés que néantisés par la musique ambiante. Alors, nous nous contentions de nous sourire. Et puis je me détournais, impatiente de retrouver Cynthia, ses cheveux qui bougeaient dans tous les sens, caressaient au passage le visage des filles, ses cheveux comme des lianes. Beaucoup plus tard, lorsque j'aurais perdu la timidité de la nouvelle venue sans avoir pris le regard blasé de l'habitude, il m'arriverait d'apercevoir Andy Warhol. Il considère en spectateur et en esthète cette orgie d'énergie féminine, ce disparate de noires, de blanches, de bourgeoises, de prolétaires, de danseuses, de travestis, d'ouvrières, d'étudiantes, de butchers, de transgenres, de drag queens, ces femmes qui veulent faire plus hommes que les hommes, ces hommes qui veulent faire plus femmes que les femmes. Il boit une coupe de Dom Pérignon, au Tense of Always. C'est là qu'il a rencontré Candy Darling, successivement Hope Slattery, Hope Dahl, Candy Dahl, Candy Kane, Ney, James Lawrence Slattery à Forest Hills dans Queens, d'un père alcoolique et violent. Un soir de l'année 1967, Andy Warhol a 39 ans. Il est au comble du succès. Candy Darling en a 23. Elle est serveuse dans ce club et y fait un numéro de danse aux heures glauques de l'aube. Elle se produit aussi avec le jeune Robert De Niro au Bastiano Cellar Studio sur Waverly Place dans Glamour, Glory and Gold, une pièce écrite par son ami Jackie Curtis, travesti aux traits de masculinité aussi marqués qu'ils sont absents chez Candy Darling, et figure célèbre de l'East Village, son quartier d'origine. Andy Warhol va la voir. Sa première impression du Tense of Always est confirmée. Candy Darling étincelle. Elle le ravit. Sa silhouette, ses traits fins, ses grands yeux noirs, son teint lisse, sa suprême élégance, sa beauté d'artifice tout droit sortie d'un film de Hollywood en noir et blanc. Elle jouera dans ses films, posera pour lui, avec lui. Il la fera entrer pour de vrai dans un monde de glamour, glory and gold. Pour de vrai dans un monde dont il sait qu'il est faux. Qu'il fonctionne et s'impose comme une marque de publicité pour de vrai dans la musique du Velvet Underground et dans Candy Says, la chanson de Lou Reed écrite pour elle et qu'il chante de sa voix mate, danse d'une tristesse très ancienne et d'une rage à peine contenue. Candy Says, I've come to hate my body and all that it requires in this world. Candy Says, I'd like to know completely what others so discreetly talk about. Une chanson que Candy elle-même a plaisir à chanter. Et c'est tout en chantonnant « I've come to hate my body » qu'elle enfile les bas de soie sur ses longues jambes soigneusement épilées. Exactement un an après leur rencontre au Tense of Always, Andy Warhol et Candy Darling sont photographiés ensemble. Elle a une magnifique perruque de longs cheveux bruns. Il porte une de ses perruques argentées, teinte de ses propres mains. Candy Darling est habillée d'une robe de voile qui moule sa silhouette élancée. Ses yeux noirs, bordés de longs cils raidis de mascara, fixent l'objectif. Elle ne sourit pas. À côté d'elle, Andy Warhol, la peau abîmée d'une blondeur blême, à quelque chose de tremblé. Il émane de lui un effet de présence inquiétante, comme en partie gommé. Lui non plus, il ne sourit pas, et on comprend. Sous son pull rayé, son buste est saccagé, couturé de cicatrices. La moindre caresse lui est insupportable. C'est qu'entre-temps, entre sa première rencontre avec Candy Darling et cette photographie, il a été victime d'une tentative de meurtre. Le 3 juin, Valérie Solanas, une jeune femme qui apparaît dans un de ses films et que toute une jeunesse de viol, de misère et de prostitution a conduite à une haine radicale des hommes, se présente à la Factory, 33 Union Square West, et tire sur Andy Warhol. Son motif ? Il a perdu la pièce de théâtre qu'elle lui avait envoyée, Up Your Ass, et a pris, selon elle, trop de contrôle sur sa vie. Valérie Solanas est aussi l'auteur de Scum Manifesto. Elle y affirme
« Vivre dans cette société, c'est au mieux y mourir d'ennui. Rien dans cette société ne concerne les femmes. » Alors, à toutes celles qui ont un brin de civisme, le sens des responsabilités et celui de la rigolade, il ne reste qu'à renverser le gouvernement, en finir avec l'argent, instaurer l'automation à tous les niveaux et supprimer le sexe masculin.
En visant Andy Warhol, Valérie Solanas obéit à sa logique et commence d'exécuter son programme d'élimination. Deux jours plus tard, le 5 juin, peu après minuit, Robert Kennedy est assassiné. Peut-être, dans sa prison, Valérie Solanas se réjouit-elle que l'extermination des mâles soit en bonne voie. Valérie Solanas a tiré 3 fois. Elle a manqué 2 fois sa cible, mais à la 3e, la balle atteint Andy Warhol au poumon, à l'œsophage, à la rate, au foie et à l'estomac. Déclaré cliniquement mort, celui-ci survit. Miraculeusement. Est-ce grâce aux prières de sa mère, Julia, fervente adepte du culte byzantin, adoratrice d'icônes et attentive à orner de médailles religieuses les sous-vêtements de son fils chéri, ou bien grâce au chirurgien qui lui a massé le cœur, son cœur qui avait cessé de battre? En tout cas, il traverse la mort. Un miracle, mais un miracle triste. Andy Warhol, loin d'exulter d'avoir échappé au pays des ombres, sera hanté par le fait d'être déjà mort. Il assistera à ce surcroît d'existence comme à un film dont il connaît trop bien la fin et qu'il trouve ennuyeux, lorsqu'il oublie l'horreur de devoir à nouveau mourir. Et c'est la mort qu'il promène avec lui quand il passe seul ou avec des amis au Thames of Always, sans qu'on dise Darling, morte à 29 ans de la leucémie. Et elle, définitivement. Peter Hujar a photographié Candy Darling sur son lit de mort. Elle est étonnante de présence, d'intensité. Elle a l'air vivante. À l'inverse, les innombrables photos d'Andy Warhol nous livrent un visage sans autre expression qu'une lointaine lueur de terreur. Pour moi, j'apercevais Andy Warhol de loin, de très loin. J'évitais de croiser ses yeux de mort-vivant, car il était celui qui pouvait dire, tel le personnage de la nouvelle d'Edgar Allan Poe, la vérité sur le cas de M. Valdemar, je suis mort. Il était mort, mais il possédait le singulier privilège de pouvoir l'exprimer. Il était mort, mais il avait encore le loisir de songer à une épitaphe, de penser à ce que soit inscrit sur sa pierre tombale ce seul mot, fiction.
Voilà.
Ça nous laisse un peu quoi?
On ne sait plus quoi lire, voilà.
Voilà, il a frôlé la mort. C'est étonnant quand même, hein, vu l'impact de la balle qu'il a reçue, de s'en sortir, ça paraît un peu surnaturel quand même.
C'est miraculeux.
Peut-être, parce qu'il avait, n'oublie pas, des médailles.
Bah, que sa maman lui causait sous ses...
Ou ça.
Sur ses sous-vêtements. Ça a dû aider, c'est forcément.
Ça peut aider, moi je pense.
Donc, tu voulais ajouter quelques petites choses, on a encore du temps.
Oui, parce que j'ai trouvé un extrait d'interview là où je me retrouve un peu dans ce qu'elle dit, mais où on est nombreux à pouvoir se retrouver, je pense, dans le domaine de la lecture. Donc, je la cite, hein, si tu veux bien. Donc, voilà ce qu'elle dit, Chantal Thomas. Je crois que la lecture peut nous sauver réellement. Certains auteurs, dans les moments de crise ou d'extrême fragilité, nous sauvent parce qu'ils nous font entendre une voix amie et qu'ils nous donnent des forces. Le simple fait de pouvoir comparer notre expérience et la mettre en perspective avec celle de quelqu'un d'autre, c'est une manière de décoller de cette espèce de trou noir du malheur. Les livres qu'on aime comptent pour nous comme des êtres humains. Chacun a comme ça une constellation de textes et d'auteurs qui l'accompagnent. Ce qu'on en retient, quelquefois, c'est simplement une phrase ou même une attitude dans la vie. Pour moi, par exemple, Le métier de vivre de Cesare Pavese n'est pas un livre parmi d'autres. Pendant des années, je l'emportais partout. Quand je déménageais, c'était la première chose que j'installais. Il est lié à certaines chambres, à certaines arrivées. Je revois exactement à quel endroit je l'avais placé dans la première chambre où j'ai dormi à New York. Je pense que la culture, au sens vivant du terme, c'est ça. Et ce qui est beau, c'est que pour chacun, c'est une sorte de configuration unique. C'est assez puissant, ça. Hein,
bah, oui,
Mireille, quel est ton livre que tu emmènes partout et...
j'ai pas forcément de livres que j'emmène partout.
Ou les deux ou trois livres que tu garderais.
Voilà, mais il y a des livres que j'ai relus beaucoup de fois.
Plein de fois.
Donc, Appel du Seigneur.
Ah oui.
Je pense que c'est le livre que j'ai le plus offert.
Tu choisis pas la légèreté.
Et alors, un auteur que j'aime beaucoup, c'est John Irving, et donc notamment Une prière pour Owen. Voilà.
Ah oui, et L'épopée du buveur d'eau que tu dois connaître.
Ah oui, 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 c'est ça qui est très drôle.
Alors, moi, je suis plus paresseux que toi, c'est un tout petit recueil de poésie, tu sais, qu'on met dans la poche. Comme ça, c'est une sorte de petit pensum.
Voilà, c'est ça. C'est...
bon, ben voilà.
Donc,
ça donne envie de lire Chantal Thomas.
Ben, oui, donc c'est pas toujours facile. Elle n'est pas toujours facile à lire, mais elle est. Voilà, c'est assez fort quand même.
C'est
voilà,
très bien écrit ce qu'on se disait. Hein. Et dans le dernier, la East Village Blues, je crois aussi qu'elle parle beaucoup de Rimbaud. Donc du coup, ça donne envie de.
Oui, oui, il y avait tout un passage sur Rimbaud et qui est. C'est très intéressant.
Bah
c'est,
oui.
Voilà, mais après, c'était plus long. Enfin voilà, puis il faut choisir.
Faut toujours choisir.
Voilà, et là, comme c'était l'anniversaire de la mort d'Andy Warhol, je me suis dit...
Ça tombait bien.
Voilà. Et puis, c'était plus en rapport avec New York que Rimbaud.
Oui, et puis, alors, pour faire référence à notre précédente émission aussi, j'ai lu que Colette continuait d'être son écrivaine la plus proche. C'est elle qui le dit, Chantal Thomas.
Mmh.
Parce qu'elle trouve qu'elle a lu Colette très tôt, Claudine à l'école, c'est ça ?
Oui, c'est ça, il y en a plusieurs. Oui.
Et elle dit qu'après, Colette l'accompagne toute sa vie parce qu'elle a été précurseur, Colette, hein, dans le domaine de la femme qui se libère de tas de choses.
Oui,
hein. Voilà, donc.
Après, on a tous lu le blé en herbe de Colette.
Voilà, donc il faut réécouter notre émission précédente où tu fais le chat et où je fais le chien.
Le chat, bien sûr, étant bien supérieur au chien.
Oui, ah ben, j'ai réécouté, j'aurais pas dû endosser ce rôle.
Oui, oui, mais bon, voilà.
C'est comme ça.
Faut assumer.
On assume.
Bien, donc écoute, je ne sais pas si ça vous donnera envie de lire Chantal Thomas. Alors, excusez-nous, les enregistrements n'étaient pas toujours terribles, là.
Il y a des petits problèmes de son.
Voilà, donc on essaiera de faire mieux pour la prochaine fois. Et la prochaine fois, je ne sais plus de qui on va parler. Sylvain Prudhomme, je crois. Voilà. Donc, on va se quitter sur les...
En musique.
En musique. Là, c'est quoi, alors ? C'est Bill Evans.
Bah, voilà. C'est très bien comme choix.
C'est pas mal, Bill Evans.
Pas mal.
Donc, à très bientôt, donc dans une prochaine émission.
À bientôt.
Un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots.